Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde, que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. C'est Jésus lui-même qui a demandé cette fête, en précisant même la date, le premier dimanche après Pâques, aujourd'hui. Il parlait à sainte Faustine Kowalska, religieuse polonaise, et cette demande a été sanctionnée par l'Église. Le pape Saint Jean-Paul II, le 30 avril 2000, instituait cette fête de la miséricorde. Cela nous invite naturellement à contempler cette réalité de la miséricorde. En effet, notre siècle cherche à la vider de sa substance, l'opposant parfois à la justice, comme si en Dieu il pouvait y avoir contradiction, ou faisant d'elle une sorte de vague sentimentalisme qui évacuerait la culpabilité, le regret et donc la possibilité de se convertir. Au nom de la miséricorde, aujourd'hui, on cherche à vider l'enfer. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un soit malheureux éternellement s'il est miséricordieux, enfin. Eh bien, c'est tout le contraire. Dieu permet l'enfer. Parce qu'il respecte absolument, par miséricorde, la libre volonté de l'homme, même lorsqu'il se perd. Alors revenons à l'étymologie de ce nom, pour comprendre ou tenter d'approcher cette réalité. Ce nom vient d'un terme qui signifie « entrailles de mer », berceau, source de la vie, pourrait-on dire. C'est par un effet de sa miséricorde dont Saint Jean-Paul II disait qu'elle est un autre nom de Dieu que le monde a été créé, nous tirant de la misère du néant à l'existence. Et pas n'importe quelle existence, l'existence à la ressemblance de Dieu, pour partager sa vie et sa vie éternelle. Partager sa bonté, son amour, sa toute-puissance. Contempler la miséricorde appelle donc de notre part un double regard. Le regard sur notre propre misère, notre pauvreté. Comme créature, nous dépendons en tout de Dieu. Nous ne tenons rien de nous-mêmes. Ça rappelle un peu d'humilité. Aimer, c'est nécessaire. C'est lui qui nous maintient dans l'être, dans le mouvement et dans la vie. C'est saint Paul qui le dit. Ce regard sur notre misère, comme être même, indépendamment même de notre agir, dans notre être même, nous dépendons en tout de Dieu. Et si Dieu cessait un court instant de nous porter dans la vie, nous retournerions au néant. Double regard sur notre misère et sur la perfection de Dieu à laquelle nous sommes appelés, la grandeur de Dieu à qui il ne manque rien. Il est et il nous appelle à être à son image. Il nous faut rééduquer ce regard sur la miséricorde qui est infiniment plus large que le pardon. Le pardon porte sur notre agir et il en est la forme la plus excellente, c'est vrai. Mais la miséricorde de Dieu porte sur notre être aussi et d'abord et en premier lieu. Il suffit de regarder la Vierge Marie. La Vierge Marie est la créature la plus sublime, fruit de la miséricorde de Dieu. Or, cette miséricorde que Dieu donne à la Vierge Marie ne consiste pas dans le pardon, elle n'a pas péché. Marie n'a aucun péché, elle ne peut pas être pardonnée. Mais son existence même, sa pureté, sa sainteté, sa perfection créée est l'œuvre de la miséricorde de Dieu. La miséricorde divine s'applique donc d'abord et avant tout à notre être même, de créature voulue, aimée par Dieu. Saint Augustin disait que l'homme est la seule créature voulue pour elle-même. C'est pour nous et pour nous combler de sa vie que Dieu nous a créés. C'est le premier pas de la miséricorde, celle qui porte sur notre être, dont il nous faut être très conscients. Mais il y a aussi cette miséricorde vis-à-vis de notre agir. Parce que l'homme a péché, s'est détourné de Dieu. Il est tombé dans une misère plus profonde encore, celle de la vie sans Dieu. Et sa conséquence, toujours possible, celle de la mort éternelle, la privation pour l'éternité de Dieu. Et en réponse à cette misère de l'homme, non plus dans son être, mais dans son agir, la miséricorde de Dieu s'est penchée sur nous. Dieu a voulu donner à profusion cette miséricorde, jaillie de son cœur sur la croix, son cœur ouvert par la lance, pour nous pardonner. Une des prières de l'offertoire de la messe de Saint-Pie V fait dire au prêtre cette invocation. Dieu, qui d'une manière admirable a créé la nature humaine dans sa dignité, l'a restaurée d'une manière plus admirable encore. C'est toujours la même amour de Dieu, la même miséricorde qui se penche sur la créature pauvre, petite, pour l'élever, pour réparer ce qui a été abîmé par le péché, reconstruire ce que l'homme a détruit par le péché. Et c'est tout le grand œuvre de la rédemption que nous venons de fêter la semaine dernière. Ce dont nous sommes absolument, radicalement incapables, Dieu le fait pour nous. Et il rétablit ainsi la justice. Car la justice et la miséricorde vont de pair. Il fallait réparer l'offense faite à Dieu. Le Christ est venu pour cela. L'évangile de ce matin nous invite précisément à entrer dans le pardon accordé par Dieu, ce renouveau de notre vie que notre faiblesse et notre péché ont abîmé. Nous avons assisté dans l'Évangile à la rencontre entre Thomas et Jésus, la misère et la miséricorde, la faiblesse de la foi et la puissance de Dieu. Notre jumeau, Thomas, Thomas signifie jumeau, il est notre jumeau, nous sommes ses jumeaux, toujours aux prises avec le doute, avec les remises en cause, avec cet esprit du monde qui envahit nos pensées et notre cœur, Jésus vient pour restaurer la foi, mettre la foi là où elle n'est pas. Et il remet Thomas et il nous remet devant cette rédemption accomplie par sa croix et sa résurrection. Les deux sont indissociables. Thomas, approche ton doigt, mets-la dans mes plaies. Approche ta main, mets-la dans la plaie de mon cœur. Jésus rappelle très délicatement, mais très fermement, sa passion et sa mort. C'est-à-dire les conséquences du rejet par l'homme de Dieu. Et il le remet en même temps devant sa résurrection. Je suis bien vivant, touche mes plaies, touche-moi. Je ne suis pas un fantôme. Nous le voyons, la miséricorde, ce n'est pas pour évacuer le péché, on ne fait pas comme si on n'avait pas péché. Quand on entend des gens pour dire « oui, mais le péché, c'est pas si grave que ça », on n'a rien compris au péché. Et on n'a rien compris non plus à la miséricorde de Dieu. Il ne s'agit pas de faire comme si, mais de recevoir cette passion, cette mort et cette résurrection du Christ comme le plus grand cadeau à cause de notre péché. La justice est ainsi accomplie par le sacrifice du Christ qui régénère le cœur toujours blessé par le péché, mais guéri par la puissance de la rédemption. Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta disait de la confession. La confession est magnifique. Nous y entrons pécheurs pleins de péchés. Nous en sortons pécheurs sans péché. Nous sommes guéris, mais toujours faibles. Nous sommes reconstruits, mais toujours capables de détruire. Nous sommes rénovés, même si nous pouvons toujours mourir. Voilà l'excellence de la miséricorde de Dieu, qui respecte infiniment sa créature, mais veut lui donner la vie. Alors il nous faut bien comprendre, et ce dimanche est là pour ça, que Dieu, par sa passion, sa mort et sa résurrection, a voulu faire quelque chose de nouveau, renouveler, remettre à neuf ce qui est vieilli par le péché. Aujourd'hui, nous sommes un peu trop habitués, peut-être, à cette formule, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Mais en pesons-nous tout le poids de nouveauté? Pour les premiers chrétiens, c'était une véritable révolution, un changement radical. C'est saint Paul qui le dit, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est né. Nous sommes renés, nous dit la liturgie, nés à nouveau. Ce monde nouveau, ce jour nouveau que nous fit le Seigneur, comme le proclame la liturgie depuis une semaine, est celui de la redécouverte de l'amour de Dieu. Un amour fou. Un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est précisément cela, la miséricorde de Dieu. Sa compassion, dit le psaume déjà, sa miséricorde chaque matin se renouvelle. Lorsque nous nous réveillons le matin, Dieu renouvelle sa miséricorde. Demandons-lui d'en être profondément conscient. Saint Jean-Paul II, dans l'homélie qu'il donna lors de son premier voyage en France, c'était au Bourget, disait ceci, « Nous encourageons précisément, dans cette prise de conscience, du poids de la miséricorde, par rapport à notre misère. Le problème de l'absence du Christ n'existe pas, disait-il. Le problème de son éloignement de l'histoire de l'homme n'existe pas. Le silence de Dieu à l'égard des inquiétudes du cœur de l'homme n'existe pas. Il n'y a qu'un seul problème qui existe toujours et partout. Le problème de notre présence auprès du Christ, de notre permanence dans le Christ, de notre intimité avec la vérité authentique de ses paroles et avec la puissance de son amour. Il n'existe qu'un problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec le Christ. Que le Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, vienne en aide à notre misère, pallie notre misère, pour nous faire comprendre la grandeur de son amour.